That's right. Now, say my name.
Heisenberg.
You're goddamn right.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, une semaine sur deux, les semaines paires, sur Radio G. Salut Pablo.
Salut Seb.
Comment ça va?
Eh, ça va bien, ouais, ça fait plaisir. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Et voilà,
on fait une bise à Seb et Anaïs.
Mais oui, qui peuvent pas être là aujourd'hui, mais qui nous écoutent et qui sont toujours présents.
On va quand même vous faire une émission bien sympathique, avec de la bonne musique, avec des livres, de la BD.
De la BD, on aura des revues, des BD, et puis des séries.
Tout ce qu'on aime.
Et puis des films, je crois aussi. Hein, voilà. Tout ce qu'on aime, exactement, de la bonne musique pour commencer. Qu'est-ce que tu nous proposes, Seb?
Alors, je propose un extrait du dernier album de Mastodon, hein, pour les fans de métal, mais de métal progressif, comme on dit.
Cool.
On va écouter Tear Drinker dans Bande Geek Mafia sur Radio G. 5.
La radio qui fait le point.
C'était Mastodon avec Tear Drinker dans Born Geek Mafia.
Du métal progressif.
Creature Shock Radio FM.
C'est l'heure des séries.
Alors oui, on va commencer par une série. D'ailleurs, une série que tu avais déjà chroniquée, donc je vais parler de Family Business. Family Business, dans la saison 3, donc du coup, sur Netflix, série réalisée par Igor Gottesman, 2019. Donc du coup, la Family Business, 2019-2021. Seb, tu l'avais chroniqué, t'avais chroniqué cette série il y a quelques mois, en juin dernier, si ma mémoire est bonne.
C'est tout à fait possible.
Oui, et c'était la saison 1 et 2, et là, du coup, on est passé, qui était drôle et surprenante. La saison 3 pousse un peu plus loin le bouchon, dans le déjanté et l'absurde. Celles et ceux qui trouvaient la série trop sage et peu transgressive vont être servis. Ça part en vrille, ça part même en coulier. Comme il est dit dans la série, hein, c'est pas de moi. Hein.
D'accord.
D'accord. Il y a un moment, il y a un passage très drôle où il y a un lait chez mes couliers. Bon, ben voilà, ok. On aura compris. Le synopsis. Est-ce la peine de rappeler le pitch de départ? Je pense pas, peut-être.
Oh, rapidement, quoi.
Rapidement, on a affaire à une famille dans le Marais. Gérard Hazan tente tant bien que mal de maintenir la boucherie cachère familiale depuis le décès de sa femme, Bénédicte. Son fils, Joseph, entrepreneur raté, pense cependant avoir la solution. En effet, il tient de Clémentine, fêtarde parisienne et fille du futur ministre de la Santé, que le cannabis va être légalisé prochainement. Il tente alors de convaincre le reste de la famille de transformer la boucherie en coffee shop. Le premier de France. En attendant cette légalisation, les Hazan vont cependant devoir cacher leur business et cultiver leur herbe en cachette afin d'être prêts. Alors voilà, ça c'était le pitch global déjà dès la saison 1. Alors, dans la saison 3, nos chers branquignoles de la famille Hazan ont été kidnappés par Catherine alias Pénélope, recherchée par Interpol. Ils sont retenus prisonniers dans un monastère en Colombie par elle et son fils, imprévisibles et violents. Ces derniers leur demandent de fabriquer leur fameuse pastraweed pour un cartel de drogue colombien. Des champignons hallucinogènes vont s'en mêler et modifier les événements. En attendant, à Paris, Aïda, Youssef et Clémentine essayent de les retrouver pour les faire libérer. Donc ça, c'est le pitch de la saison 3.
Alors c'est vrai que c'est une saison complètement déjantée. Hein.
Elle est clairement déjantée. C'est vrai que... D'ailleurs, tu me diras ton point de vue après, parce que je crois que t'as été un peu mitigé, hein, il me semble. Hein.
Bah, je suis pas le seul.
Et t'es pas le seul. Alors, on retrouve évidemment Joseph et Olivier, le duo de choc, en mode débile, à la façon Eric et Ramzy, mais un peu plus extrême. Ce qui est intéressant, on a notamment des scènes d'hallucinations hilarantes. Enfin... que moi j'ai trouvé assez hilarante, mais parce que je suis bon public et je me suis laissé prendre au jeu. Le jeu des acteurs est au top. Ils sont souvent... Alors, ils surjouent. C'est clair qu'ils surjouent. Ils sont souvent filmés de près par la caméra en gros plan, ce qui renforce le lien avec le spectateur. La saison part en vrille, en sucette, je le disais. On va de rebondissement en révélation. On rit, on s'émeut. Une comédie légère, qui fait du bien, parfaite pour attaquer l'automne.
Voilà, donc tu veux mon point de vue?
Oui, vas-y.
Alors, nous, on l'a vu en famille, puisque c'est Family Business, on l'a vu à plusieurs. Non, en fait, on avait beaucoup, beaucoup aimé les deux premières saisons, et là, on a été quand même assez déçus. Alors, pas par les acteurs, surtout Jonathan Cohen, qui est toujours excellent. C'est vrai qu'il y a un côté Rick et Ramsey qui est sympa,
ouais.
Mais nous, on a trouvé que c'était quand même plus lourd et plus indigeste.
C'est clair, ils vont un peu trop loin. C'est vrai que je trouvais qu'ils ont perdu en subtilité.
Ouais,
ils ont gagné ce qu'ils ont gagné en déjanté, je trouve qu'ils l'ont perdu en subtilité. Et du coup, on a voilà, un côté un peu grand guignolesque, ça part un peu dans tout et n'importe quoi.
Ouais, y a des références à la culture populaire, ça c'est sympa, hein, ouais. Mais je sais pas, moi on est un peu resté sur notre faim, hein, on était déçus, voilà,
ouais.
Tout simplement.
Ouais, mais c'est bien d'avoir les deux points de vue, je trouve que du coup...
Par contre, si vous n'avez pas vu la première saison, c'est génial.
Ah ouais, clairement. Ouais, je pense que, effectivement, hein, moi je trouve que... La première saison est superbe. La deuxième, un petit.
Deuxième, ça va.
Ça va. Bon, la troisième est peut-être un peu moindre, mais c'est vrai que voilà. Ça
c'est souvent le cas dans les séries télé. Ouais. En fait, on en avait parlé quelques fois. Souvent, les deux premières saisons sont vraiment bien, et à partir de la troisième, c'est toujours moins bien. Enfin, on a plein d'exemples de séries où, à partir de la Dexter ou d'autres, à partir de la troisième saison, c'est moins bien.
Ouais, tout à fait.
Et après, ça se perd un peu, etc. Donc, même, je sais pas, Casa de Papel. Enfin, moi, je trouve assez personnel.
Ouais, complètement.
Voilà. Donc regardez les deux premières saisons, la troisième si vous voulez, mais c'est pas la mieux.
Ouais, c'est voilà.
Sauf si vous aimez les trucs complètement délirants.
Voilà, c'est ça. Si vous aimez le délire et partir un peu en vrille, et vous voyez, vous voulez vraiment les accompagner dans leur délire, là vraiment vous allez kiffer.
Après c'est difficile d'accompagner parce qu'en fait il y a une histoire de drogue et voilà. Ouais. Et c'est difficile d'accompagner des gens dans leur trip quand on n'est pas soi-même concerné.
C'est un peu le problème. Donc on
est extérieur.
On reste extérieur. Alors il y a des moments quand même où ils nous mettent un petit peu dans l'illusion, mais on reste. Après moi ce que je trouve intéressant dans la série, c'est vraiment ces moments de révélation. Il y a des choses qui vont être dites et bon qu'on avait un peu deviné, mais voilà qui vont. Je peux pas en dire plus. Mais c'est vraiment très sympa. Voilà.
Alors une autre série pour moi, c'est une série dans la peau d'Orelsan. Orelsan, le rappeur.
Ouais.
Ça s'appelle Orelsan montre jamais ça à personne. Et c'est disponible sur Prime Video. C'est un portrait intime du rappeur qui a été filmé par son frère pendant 20 ans. Entre vie de famille et polémique, hein, bien sûr. Et alors c'est assez marrant parce que personne n'avait entendu parler de cette série, donc c'est pour ça que j'avais envie de parler d'elle et puis de partager ça avec vous. J'ai pas encore vu, hein, mais ça te fait très envie, je vous explique. On suit donc Orelsan dans sa jeunesse et son adolescence, voilà. Et alors on le suit vraiment partout, même chez sa mamie, chez sa mamie Janine, voilà, qui ressemble à toutes les grand-mères, voilà, c'est qu'on a ou qu'on rêverait d'avoir.
Ouais.
Et donc
petite mamie gâteau.
Ouais, c'est ça. Et donc Clément Corentin, voilà, c'est le frère d'Orelsan. Pendant 20 ans, je le disais, il a filmé la carrière de son aîné de 3 ans, le rappeur. Donc mamie, elle est déchaînée, forcément. Elle est contente. Mais ça tremble parfois un peu au niveau de l'image, mais ça, c'est pas grave, en fait. Certains plans sont sous-exposés aussi. En fait, ils tournaient ça avec un caméscope, hein, mais ce qui frappe, c'est la complicité, voilà, la confiance, l'amour, tout simplement, qui circule entre les deux frères.
D'accord.
Et c'est en 6 épisodes.
Alors ça, c'est intéressant parce qu'au lieu d'être comme un documentaire, ça, ils l'ont monté en série.
C'est une série documentaire.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Donc à l'époque, évidemment, Orelsan a 20 ans, il est pas connu, il a l'air encore d'un enfant et il s'apprête à faire sa lessive. Enfin, vous voyez, on le voit dans sa vie quotidienne. Il fait des études de commerce qu'il expédie assez rapidement. Il espère devenir artiste. Et puis, devant l'objectif de son petit frère, il n'ose pas encore y croire tout à fait, quoi. Il est à Caen, il n'y a pas de gens connus, il n'y a pas de rappeurs connus à Caen. Comment on devient le premier rappeur issu de la classe moyenne? C'est des questions qui se posent. Hein. Voilà, donc on est entre film de famille, buddy movie, documentaire musical classique, avec des images de concerts, des témoignages d'autres stars, des témoignages de Soprano, d'Akhenaton, d'Oxmo Puccino, de Stromae, de Gims.
Trop bien.
Donc voilà, c'est une espèce d'équilibre, en fait. Il n'y a pas tellement de longueur ni de temps mort. Voilà, on saisit l'entourage du chanteur et puis surtout ses potes comme Gringe, que vous connaissez peut-être. Voilà. Et en creux, en fait, on a 20 ans de carrière, mais aussi on a le portrait d'une France, de la France de l'époque, qui ne comprend pas sa jeunesse, qui condamne sans écouter. Voilà, on a des images troublantes d'un concert à Rennes. Qui provoque des débats dans les médias à cause des paroles d'une chanson au sein de l'Assemblée nationale, qu'il y a des militantes féministes, il y a la gauche radicale qui s'en mêle, il y a des tensions, il y a de l'incompréhension, et ça met du temps à retomber. Et le rappeur, lui, il comprend pas, il envisage de tout arrêter. Enfin voilà, donc c'est assez intéressant, c'est aussi le portrait de la société, en fait.
Ouais, voilà. Tout à fait.
Donc Orelsan et ses potes, ils ont tenu bon, ils se sont accrochés à leurs rêves, et puis je pense qu'ils ont bien fait.
Ok, voilà. Cool. Donc ça donne envie, hein, aussi.
Ouais, c'est ouais. Orelsan montre jamais ça à personne. Alors on va pas écouter Orelsan, Pablo, c'était pas prévu dans notre playlist aujourd'hui.
Ok, bah oui.
Par contre, on avait envie d'écouter Liminianas et Laurent Garnier avec Au début, c'était le début. Alors, le titre du morceau est assez. Assez marrant.
Ouais.
Mais surtout que c'est Alex. C'est pas Alex Baupin, c'est Bertrand Belin qui chante.
Bertrand Belin, ouais.
Et ça nous a fait penser à un grand chanteur qu'on adore, Pablo.
Ouais, Alain Bachung.
Ça nous a fait penser à Bachung.
Clairement.
Alors on écoute Au début, c'était le début. Yes. Dans Bandit Mafia.
La radio qui fait le point à 101.5.
la suite. Le bois et le couteau, la foule et le poteau, l'auto capote, lécher la route. Les murs sont tachés, la porte est arrachée, les nuits sont des nuits d'amour, dur à digérer. Un séjour sans secours, au sommet d'une tour penchée, la tranquillité, la journée. Le phono abandonné, je te garde beauté. Dans l'aridité, je te garde beauté. Pousse ton bras que je m'allonge. La journée m'a tué. La journée m'a tué. C'était le début. Mais vite, ce fut la suite. Le feu au château, l'oiseau dans le mazout, l'auto capote, la neige crado. La mort du frigo, la porte est arrachée, les nuits sont des nuits d'amour, dur à digérer, un séjour sans secours, au sommet d'une tour penchée, la tranquillité. Le phono abandonné, je te garde beauté. Dans l'aridité, je te garde beauté. Pousse ton bras que je m'allonge. La journée m'a tué. M'a tué. Pousse ton bras que je m'allonge. Tattoo, run, run. Tattoo, run. Tattoo, run. Tattoo, run.
Voilà, c'était Liminianas et Laurent Garnier avec le chanteur Bertrand Belin.
Ouais, à la façon Bachon.
Au début, c'était le début. Et maintenant, c'est la suite.
Et maintenant, c'est la suite. Hein, parce que là, on était au début, mais...
Voilà. Puis c'était... Est-ce que c'est le début de la fin? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est le début du début.
Ou la fin du début.
Bon, alors, soyons sérieux. Ouais. Hein, un petit jingle. Et allez. Puis, on parle ensuite de bande dessinée.
Nickel.
Shock Radio FM.
Ah oui, ça vient.
Il a pas pu s'en empêcher.
Quand tu dons dans ton panier du fromage, quand tu dons dans ton panier du fromage de chez Morel.
Alors Pablo, qu'as-tu dans ton panier ce soir?
Bon, d'habitude c'est Seb hein, qui a des choses dans son panier. Bon, bah là j'ai. Alors moi je suis venu avec un magazine BD qui ressort. C'est Métal Hurlant.
Ah oui.
En fait, Métal Hurlant, le retour d'un magazine culte. Hein. Et là, je vous présente du coup le nouveau numéro 1 de cet automne 2021. Alors, il est assez beau. Je vous lis une partie de l'édito. Il était en train de passer l'aspirateur quand le téléphone sonna. Fermez les guillemets. Cet incipit du novelliste Raymond Carver résume assez bien l'une des intentions de ce numéro de Métal Hurlant. Rien de plus banal que de passer l'aspirateur chez soi. Soudain, le téléphone sonne et tout peut arriver. Chacun se souvient de l'endroit où il était lorsque les Twin Towers ont été effondrés le 11 septembre 2001. L'incrédulité qui s'est emparée de nous lorsque les partisans de Donald Trump ont envahi, par exemple, le Capitole. Ou bien ce vendredi après-midi du 13 mars 2020 en France, lorsque le bruit a commencé à courir que bientôt nous allions devoir rester cloîtrés chez nous. Quoi, des militaires allaient patrouiller au coin de la rue ? La science-fiction est un genre littéraire qui s'est bâti sur un tour de passe-passe. Une ficelle narrative pas plus épaisse que les moustaches de Pixie Glatz ou de Seb, ici présent. J'ai pas pu m'empêcher, excuse-moi.
Pas de problème.
Pas question de prédire l'avenir, bien entendu. C'est fort impossible, justement. Non, il s'agit tout simplement de décaler un tout petit peu le monde, tel qu'il est, afin de le projeter dans le futur, le passé, l'espace, n'importe où. Pour autant, dans ce numéro, pas de vaisseaux spatiaux interstellaires, de guerre des étoiles, de fantasy musclée, ni de space opéra. Le premier opus de cette nouvelle série de Métal Hurlant est dédié à l'un des genres prédominants de la science-fiction contemporaine, le near future, ou anticipation proche. L'idée, c'est que la science-fiction est déjà là, parmi nous, dans notre quotidien, nos engagements, nos vies concrètes. Bref, dans ce numéro, vous trouverez des BD courtes qui tiennent, courtes comme des nouvelles, hein, écrites comme des nouvelles, qui tiennent en fait les deux tiers du magazine, mais aussi des photos, des images et des interviews, comme celle excellente par exemple d'Enki Bilal ou d'Alain Damasio, célèbre auteur, philosophe de science-fiction français. Un petit côté anarchiste, parfois foutraque, mais d'une vraie profondeur. De la belle ouvrage. Donc voilà, je répète, c'est Métal Hurlant. Vous le trouvez en kiosque. Alors, il n'est pas donné.
Combien ça coûte ?
Il coûte effectivement 20 euros. Mais parce que, effectivement, vous avez beaucoup de bandes dessinées par des auteurs très divers, avec des graphismes tout aussi divers. Et,
donc ça les vaut.
Ça les vaut, honnêtement.
Est-ce que ça peut être un cadeau de Noël ? Parce qu'on va commencer à faire les cadeaux.
Oui, ça peut être un cadeau de Noël, un peu original et assez rock'n'roll. Moi, je trouve que, voilà, il y a quelque chose d'un peu. Voilà, et pour les nostalgiques.
Métal Hurlant, ouais.
Voilà, il y a quelque chose qui peut être sympa.
C'est pas mal du tout.
Ouais.
Merci Pablo.
Ben avec plaisir. Et toi Seb, qu'est-ce que tu donnes dans ton panier ?
Ben une BD de Fab Caro.
Yo, voilà, ça faisait un petit moment.
Alors Fab Caro, c'est un auteur de BD, c'est aussi un auteur de romans, sous le nom de Fabrice Caro, son vrai nom. Ouais. Mais Fab Caro, voilà, il sort régulièrement des BD complètement décalées, délirantes, et avec un humour très particulier.
Et, un roman aussi.
Et des romans, oui. Je viens de le dire.
Tu viens de le dire, excuse-moi.
Il m'écoute pas.
J'ai eu une absence.
Il ne m'écoute plus. C'est vieux couple, ça.
C'est ça.
Alors, en fait, on est à Hollywood dans les années 50, sur le tournage d'un western.
D'accord.
Voilà. Et la star féminine est victime d'une terrible agression. Profitant de son sommeil, un ignoble individu lui dessine une bite sur la joue.
Oh la vache.
Heureusement, l'inspecteur Ernie Baxter prend les choses en main. Voilà le pitch.
Ça commence bien.
Alors depuis l'énorme succès de Zai 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 en 2015, la carrière de Fabrice Caro, alias Fab Caro, a pris un virage à 180 degrés. Et à peine quelques mois, l'auteur confidentiel jusqu'alors est devenu un véritable phénomène d'édition. Un triomphe hein, aussi avec son roman Le Discours, publié chez Gallimard en 2018 et récemment adapté au cinéma. Ça n'a fait qu'amplifier le phénomène. Alors, il est tout terrain, hein, Fab Caro, mais il est concis, il est satirique, il est pétri d'absurde, on le disait. Son humour surprend et touche autant les inconditionnels des Monty Python, comme moi, que les amateurs de TikTok. Pas comme moi. Donc, mais c'est un cocktail, voilà, dont l'époque raffole.
Ouais, tellement, avec un petit côté surréaliste aussi.
Hein. Ouais. Tellement que depuis 6 ans, celui qui se destinait à devenir prof n'arrête plus de produire, au risque de parfois s'essouffler. Oui. Parce que la mécanique du gag, elle n'est pas illimitée, les humoristes le savent bien, comme Gottlieb qui préféra s'arrêter plutôt que de faire l'album de trop.
Tout à fait.
Fab Caro, lui, il a eu la bonne idée de se servir de ses doutes, de sa fatigue, de ses petits tracas, ses réflexions, et des réflexions de ses proches aussi, de ses problèmes de voisinage, comme éléments comiques, et de les insérer dans la trame de son album. Donc on est carrément sur une parodie de film noir, drôle et décalé. Moon River, c'est aussi le journal de bord d'un auteur sur la corde raide, au bord du burn-out et de la cinquantaine. Tout est traité avec un style graphique différent. Les différentes intrigues de la BD sont traitées avec un style graphique différent.
D'accord.
Ouais. Et ça fait un peu écho au film Le Magnifique. Je sais pas si tu te souviens où Jean-Paul Belmondo il incarne à la fois un écrivain un peu ringard et son héros de papier flamboyant. L'espion Bob Sinclair. Et donc c'est une mise en abîme qui est réussie, qui est réjouissante, où s'exprime aussi une grande lassitude. On ressent chez Fab Caro une certaine lassitude.
Qu'il met en image, et du coup, ouais, et dans son personnage.
On ressent dans les dialogues et dans les personnages. En tout cas, si vous avez envie de découvrir Fab Caro, ou de vous amuser, ou de ressentir là, ces sentiments partagés chez l'auteur, je vous conseille Moon River, donc la dernière BD de Fab Caro. C'est aux éditions Six Pieds Sous Terre. Ça fait 80 pages et ça coûte 16 euros. Voilà.
Cool.
Ouais.
Impeccable.
C'est cool. Alors Pablo, Feu Chatterton, c'est maintenant. Pourquoi?
Allez. Pourquoi Feu Chatterton?
Parce qu'on veut un monde
nouveau.
Voilà, tout simplement.
Dans votre Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5. La radio.
Un grand renouveau souffle sur le pays. Très chaudement. Dans un bain de foule dévot. À moitié épaillis. Se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mauvais traits d'esprit du serveur central.
Se prendre dans les bras,
Et voilà, c'était Feu Chatterton.
Un monde nouveau.
Ouais, on en a besoin.
Ouais, surtout qu'on en l'avait promis.
On l'a pas vu arriver.
Non.
Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Alors,
exactement ça.
Pablo.
Oui, c'est encore moi.
Tu veux un petit jingle?
Allez,
ah bah,
pas.
Bien sûr, allez, c'est parti. Creature Shock Radio FM. Donc là, on a dit qu'on parlait de livres.
Alors, de livres.
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio, là.
Bien joué.
Petite blague.
Petite blague. Alors effectivement. Alors bon, en fait, c'est plus qu'un. Enfin, c'est pas vraiment un livre puisque c'est une revue qui s'appelle La Septième Obsession et c'est un hors-série. Je vais vous parler du hors-série numéro 7.
Excellente revue hein, pour les amateurs de cinéma.
Oui,
les cinéphiles
c'est bien
ou pas
de
la septième obsession.
La septième obsession, vraiment, donc pour tous les cinéphiles. Et c'est vrai que ça va dans tous les genres de cinéma. Donc vous y retrouvez. Hein. Tu parlais de David Lynch.
Ouais, Wes Anderson. Il y a eu un numéro sur les arts martiaux au cinéma.
Excellent. Et donc là, on est sur Harry Potter. C'est le hors-série numéro 7. Donc voilà. Consacré à Harry Potter. Qui aurait parié sur le petit sorcier binoclard? Qui aurait parié alors que le nouveau millénaire pointait le bout de son nez sur un petit apprenti sorcier trimballant des traumas familiaux dans un pensionnat hors du temps et du monde? Depuis un siècle au moins, l'horizon de l'an 2000 s'imposait comme le sacre d'une technologie toute puissante, l'avènement d'une modernité pour laquelle l'impossible n'existait plus, laissant l'extraordinaire appartenir au quotidien. Pardon. Alors que tout le monde s'attendait à des voitures volantes, des expéditions dans l'espace, le plus lointain, une vie sans cesse réinventée, le réel s'est effondré en nous rappelant par la même occasion son impérieux pouvoir sur nos vies. Il y avait, c'est certain, un bug dans la matrice. Les attentats du 11 septembre 2001 ont achevé de nous convaincre que nous ne venions pas d'entrer dans le 21e siècle, mais que se perpétuait au contraire la barbarie de l'histoire. Quelques mois plus tard, avant les fêtes de fin d'année, Harry Potter à l'école des sorciers de Chris Columbus arrivait au cinéma juste après 4 ans après l'apparition du livre de J.K. Rowling. Donc de la magie, des enfants, un peu de mystère, des archétypes remis au goût du jour, mais sans être révolutionnés. Voilà ce qui a aidé une génération entière à surmonter l'horreur de son temps et se retrouver et trouver matière à espérer et rêver de nouveau. Donc dans ce, là je vous lisais en fait un extrait de l'édito en fait de la revue. Dans ce numéro, vous trouverez des portraits des personnages principaux de la saga, des analyses sur la mythologie qui la fonde, des interprétations de ces scènes fameuses, de ces messages. Le magazine revient sur l'ensemble des films de la saga. Je vous souhaite une bonne lecture. Donc voilà, c'est un petit magazine qui se trouve qui est très très sympa.
Ah, c'est un beau magazine.
Et c'est un beau magazine en fait pour tous les fans de la saga.
Et c'est très fouillé, la septième obsession. Ouais. Il y a vraiment des articles de fond sur des films, sur des réalisateurs, sur des personnages.
C'est... Avec un graphiste aussi qui a dessiné les personnages. Il y a vraiment des choses. Il y a des très belles choses.
C'est très chouette.
Donc vous trouvez autant du dessin que des images, bien sûr, des films et vraiment des interprétations assez pointues, assez fines et intéressantes et vraiment accessibles.
Merci Pablo.
Avec plaisir.
Alors moi, Anaïs n'est pas là, mais j'ai un roman jeunesse pour les plus de 13 ans.
Ah ben voilà.
Mais ça va aussi intéresser les adultes, excusez-moi. Ça s'appelle Mauvaise Graine.
Eh ben oui.
Et on n'imagine pas du tout que ça parle de football.
Eh ben non.
Alors c'est un roman de Benoît Mainville, 400 pages de folie douce, hein, où Benoît Mainville rend, ses personnages vibrants. Voilà, c'est un livre solaire. Voilà, on a besoin de soleil, là c'est l'occasion.
Cool.
Alors, moi je ne sais pas comment l'auteur fait pour atteindre une telle justesse. Voilà. C'est clair, il écrit des romans jeunesse qui sont toujours bien vus, et là il récidive en fait avec son nouveau roman. Il arrive à rendre la langue des ados au plus près de leurs mots, sans verser dans la caricature, ce qui n'est quand même pas facile.
Ouais. Ça, voilà. c'est un beau challenge.
Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une finesse, mais aussi une tendresse, voilà, pour rendre ces personnages vivants, vibrant, si vrai quoi. Il y a un sens du rythme, de la pulsation, un art de dire dans la même phrase la vacherie et la beauté de la vie.
Parfait.
Voilà, de vous faire passer dans l'instant du rire aux larmes, dans un arc-en-ciel d'émotions. On en parlait tout à l'heure, là, on est là-dedans. Voilà, et donc ça se reproduit avec Mauvaise Graine, qui remet en scène un des personnages d'un de ses romans précédents, Vasco. Il a maintenant 30 ans, voilà. Il a envie de dire, et il le dit dans le roman, putain, 30 ans.
Ouais.
Presque 31.
D'accord.
Alors qu'est-ce qui lui arrive? Il traîne au Portugal. Il bosse comme serveur dans une paillote avec des garçons et des filles, tous plus jeunes que lui. Hein, et vous verrez, ça vous arrivera. Et il voudrait trouver un sens à sa vie. Voilà, c'est souvent le cas à 30 ans. Et celui-ci va venir d'une rencontre avec Mélissa, une amie de toujours, en vacances au Portugal. Elle est devenue prof dans un lycée au pied des tours où elle a été élève. Et de fil en aiguille, elle va l'embaucher comme entraîneur d'une équipe de futsal. Qu'est-ce que le futsal, Pablo?
C'est du foot qu'on pratique en salle.
Exactement, c'est le football en salle. Et elle s'occupe de cette équipe. Et donc cette équipe est en mauvaise posture, dévastée par le départ de l'ancien entraîneur.
Ouais.
Et c'est parti pour 400 pages de folie douce. Vasco, à sa manière aussi branque que formidable d'humanité, va faire des merveilles, permettre à ses mauvaises graines de s'épanouir et de croire en soi, de croire dans le groupe. Alors ça vous fait penser à Ted Lasso, la série dont je vous ai parlé
l'autre jour. Oui, c'est ça, un petit écho.
Et oui, exactement. Chaque personnage est attachant, complexe et singulier. Et l'énergie du roman vous porte. Voilà, c'est sensible, c'est solaire. Je vous le conseille, c'est Mauvaises graines de Benoît Mainville aux éditions Sarbacane. Ouais. 412 pages, 17 euros. Joli cadeau de Noël.
Parfait.
Pour les petits et les grands à partir de 13 ans.
Nickel. Voilà. Mais dis-moi, il s'y connaît vraiment au foot, le gars? Il est bon, j'ai l'impression?
Parce autant que Thierry Roland en danse classique.
Voilà.
Donc. Vieille référence.
Ouais.
Non, c'est vraiment sympa. C'est pas que sur le foot, mais c'est aussi là-dessus. Mais c'est très chouette.
Voilà. Très, très bien.
Et donc, c'était un petit clin d'œil à Anaïs. Ouais. Et on va écouter tout de suite Flox avec Kick Out.
Voilà.
Non, Kick It Out.
Kick It Out, spécial dédicace à Anaïs. Voilà, vous êtes bien sur Bande Geek Mafia sur Radio G, 101.5.
Radio qui fait le point.
Times are so great. The sea's bleeding, all I hear you say is come on, come on, pick it up. You see us covered in tar, but you're never gonna move, cause you're covered by the movie stars. Three bar, Cincy Ouija. Come on, we got to drag the beast alone. Gotta kick it out, cause you won't. Somebody's got to do it. I gotta kick it out, cause you won't. Plug our way right away. I gotta kick it out, cause you won't. Somebody's got to do it. I gotta kick it out, cause you won't. Plug our way right away. Putting up with fate, getting up late. You got to be tough about your head, pulling out the weight, the hole you can see. Oh yeah, we'll be up to the break of dawn. Too many hurts, too many wars, too many wounded cause. You gotta feed what's right to the youth, could they take it in, never let it out. So I gotta kick it out, cause you won't. Somebody's got to do it. I gotta kick it out, cause you won't. Wanna play anyway. I never had a doubt where it is sown. In the long run, hope we do it. I gotta kick it out, cause I'm stoned. Throw away, right away. Throw away, throw away. Yeah. Plug away, plug away, plug away. Throw it away, throw it away, throw it away. Plug away, plug away, plug away. Yeah, come on. I gotta kick it out, cause you won't. Somebody's got to do it. I gotta kick it out, cause you won't. Plug away, run away. I gotta kick it out, cause you won't. Somebody's got to do it. I gotta kick it out, cause you won't. Throw away, right away.
yo yo. Alors là, vraiment, je fais un clin d'œil à Planète Reggae, yes. Émission qui a lieu le mercredi, mais après Rudy's Back, à 22h. Voilà.
Yes. Reggae Man.
Ça te plaît, ça, Pablo, hein?
Moi, j'adore.
Ouais, je sais. Alors, c'est l'heure de parler de l'art. Pas du lard.
Et nous continuons notre voyage cérébral.
J'adore Stupéflip. Alors, le musée d'art moderne de Fontevraud, je voulais absolument vous en parler parce que je suis allé visiter ce musée avec Florence. C'est super. L'abbaye de Fontevraud, on la connaît dans la région. Mmh. C'est très très beau si vous aimez l'art religieux, hein, mmh. Voilà, clairement. Ouais, mais aussi une histoire un peu particulière, cette abbaye qui a aussi été une prison, par exemple. Ouais. Là, la nouveauté, c'est ce musée d'art moderne qui vient d'ouvrir grâce aux collections nationales de Martine et Léon Klingman, qui ont offert donc leur collection au musée de Fontevraud. Alors, l'abbaye se dote d'un nouveau musée avec cette collection exceptionnelle. Il y a des Corot, des Rodin, enfin, je vais vous en parler tout de suite. Martine et Léon Klingman, donc à la fin des années 50, ils font leurs premières acquisitions. Ils sont jeunes mariés. C'est un autoportrait de Toulouse-Lautrec. Carrément.
D'accord, carrément.
Aujourd'hui, il est accroché dans la première salle du nouveau musée d'art moderne de Fontevraud.
Ah, c'est énorme, il y a des œuvres majeures. Hein.
Ah oui, oui, carrément. Alors, le démarrage a été pétaradant. Ah oui, parce qu'on démarre tout de suite avec Toulouse-Lautrec quand même. Ouais. Et c'est assez rigolo parce que le peintre se représente de dos, devant son chevalet. C'est assez marrant. Hein.
Ouais.
Et donc, pourquoi je dis pétaradant? Parce qu'il lâche un vent tonitruant, matérialisé par un grand panache blanc. Et donc, 6 décennies plus tard, les collectionneurs chevronnés, hein, lui, il était dans l'industrie textile, elle est artiste,
ouais.
Quasiment 2 siècles à eux deux, parce qu'ils sont très âgés, ils finalisent en beauté leur passion, la passion de toute une vie. En juillet 2018, ils offrent à l'État et à la région Pays de la Loire 900 œuvres, principalement d'art moderne, mais aussi antiques et extra-européennes. Les anciennes écuries de l'abbaye de Fontevraud ont été transformées donc, en centre culturel déjà dans les années 70, mmh. Et elles viennent d'être restaurées pour accueillir cette donation exceptionnelle. Alors, comment passer d'un appartement parisien aux murs et étagères truffés d'œuvres à un parcours muséal retenant l'attention du visiteur, tout en lui donnant des informations didactiques? Mmh. Le parti pris de Dominique Gagneux, directrice du musée, et de la scénographe Constance Guisset, a consisté à révéler l'œil et la sensibilité en jouant avec les confrontations. Ainsi, on a une superbe sculpture au visage érodé de Germaine Richier, donc une sculptrice du XXe siècle, artiste phare de la collection. Il y a 14 pièces au total là, dans le musée. Elle est mise en regard avec un masque funéraire du Pérou du Xe siècle, lavé par le temps.
Ah ouais.
Et donc, cette dynamique fonctionne à merveille, émaillée d'installations sonores réussies. On va de surprise en surprise, vraiment. Le visiteur découvre des grands et des petits noms des 19e et 20e siècles, donc Corot, Rodin, Soutine, Valadon, Vuillard, Georges Cars, Vautrier, Pougny, Édouard Curie. Et on en ressort comme dans un livre d'histoire de l'art. Ce qu'on ressent, c'est comme l'histoire de l'art,
ouais.
Vu par le prisme de collectionneurs ancrés dans leur époque.
Ouais, tout à fait.
Évoquant la figuration de l'entre-deux-guerres et la reconstruction, tandis qu'une certaine mélancolie s'installe, alors que l'abstraction déferle. Mmh. En fait, c'est l'exaltation du modernisme des classiques, de Degas. Comparé avec un bronze du Bénin, enfin c'est des trucs de fou.
Ah oui,
et du classicisme des modernes, Van Dongen, de Rhin. L'équilibre est parfait en fait, ouais. Entre les confrontations géographiques, ouais, c'est chronologiques.
Des télescopages un peu étonnants quoi. En fait.
Étonnant et super, ouais. Bien réussi.
D'accord.
Il y a une salle très 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 sympa où on a voilà des sculptures de Germaine Richier qui viennent entrer en écho avec un tableau dans le fond là sur le mur. Enfin c'est très
d'accord.
Chouette. Le tableau de Bernard Buffet voilà.
Bernard Buffet, d'accord.
Donc voilà, musée d'art moderne de Fontevraud. Fontevraud, c'est à quoi? C'est à 3/4 d'heure, 1 heure d'ici, oui. Au sud du Maine-et-Loire. Mmh. Collection nationale Martine et Léon Klingman. Vous pouvez aller voir sur le site www.fontevraud.fr. Voilà, magnifique.
Eh ben merci beaucoup Seb.
Ben, je vous en prie.
Belle visite. Hein.
Non mais je vous conseille vraiment.
Ouais,
soit pour découvrir, soit parce que vous ouais. aimez l'art, mais.
Ouais ouais, puis on passe un super moment et c'est vrai que les comment dire le musée d'art moderne qui enfin, ils avaient déjà quand même commencé à faire ce travail-là à Fontevraud, avec un musée pédagogique aussi, et juste superbe. Et là, c'est vrai que je pense que ça doit être assez hallucinant.
Ah, c'est excellent.
Dans ce cadre de vieilles pierres.
Donc, Pablo,
alors,
on va écouter, on a un petit peu de temps.
Ouais,
alors, on avait vraiment envie de vous faire découvrir un super album. Alors là aussi, un super cadeau de Noël. Si vous aimez la soul et le funk, c'est The Daptones Super Soul Review, live at the Apollo. C'est un super album live de soul et de funk qu'on vous conseille hein, tout simplement dans Band Geek Mafia. On écoute de tout, on est éclectique. Ouais. Et on peut écouter tout de suite un petit extrait. Si vous aimez ce genre de musique, restez avec nous dans Band Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5, Radio qui fait peur.
Soul Night at Jazz Avignon, sponsored by the Apollo Theater, the legendary Apollo Theater in New York City. We are the Dap Kings. Ladies and gentlemen, tonight we came here to showcase for you the brightest stars in the Daptone Soul universe. But before we go any further, let's give it up one more time for Ben Longo with Soul. Giving you that French soul sound. Right about now, we're gonna show you how Brooklyn gets down. Cause ladies and gentlemen, we brought everybody almost from the Daptone Soul label. I'm talking about we brought the Sugarman 3. We brought Auntie Ballas. We brought Mr. Charles Bradley. And we even brought Miss Sharon Jones. All right, but before we bring out the star of our show, we just got to get things a little bit warmed up while we get you a little bit more warmed up. Is that all right? Jazz Avignon, you ready? Dap Kings, do it!
Et voilà, c'était The Daptone Super Soul Review, live. Et oui, alors, on aime le funk, on aime ça, Pablo,
ouais.
Même si on n'en écoute pas tous les jours.
Non, c'est vrai, et le Daptone, c'est, effectivement, c'est un super label aussi. Hein.
Ouais, Daptone, okay. C'est un super label de musique.
De soul, soul funk, quoi.
On voulait absolument partager ça avec vous, voilà.
Donc là aussi, idée de super cadeau.
Ah ouais, si vous voulez, si vous connaissez des gens qui aiment la soul ou le funk, vous voulez faire un cadeau de Noël, faut acheter cet album. Alors, je voulais avant de terminer cette émission faire un petit coucou à Fred et parler d'Alex Baupin qui vient de sortir un album incroyable qui est la reprise de Love on the Beat de Gainsbourg. Alors, Pablo, on s'en souvient, hein, toi et moi, au début des années 80, les soupirs lascifs de Jane Birkin laissent la place au râle de jouissance de Bambou. Hein, on était jeunes, ça nous a troublés, mais aussi à la puissance robotique des boîtes à rythme. Au phrasé clinique des ébats de Gainsbourg, devenu Gainsbar. L'époque est au Love on the Beat davantage qu'au Je t'aime moi non plus. Et sous les dehors clinquants d'un funk, mais gonflé cette fois-ci aux hormones.
Mais la funk, ça allait aussi.
Ça allait aussi, excusez-moi. Mais en même temps, ça parle de ça.
C'est ça.
L'ambivalence pourtant reste de mise à l'image du chanteur rouge à lèvres, épaules nues, qui pose plein cadre sur la pochette réalisée par William Klein. Comment reprendre un tel objet du scandale, une œuvre qui suinte le soufre par toutes ses rimes, eh bien en calmant le jeu. Et sans l'éteindre, sans éteindre le feu, c'est ce que propose Alex Baupin qui, adolescent, s'est pris de passion pour cet album. L'entreprise démarre avec des cordes, on va écouter ça, de longs violons, des archets vigoureux qui soutiennent une ligne de basse synthétique venue de la plus noire des discothèques. Alors on est drapé dans des arrangements classiques, eh bien cet album Love on the Beat se part d'un romantisme vénéneux, sans jamais renier son amour des bas-fonds et des sous-sols dansants, grâce au travail de Saint DX. Deuxième bonne idée à la vantardise provocatrice de Gainsbourg sur l'original.
C'est clair.
Baupin y répond par un détachement presque fataliste dans son interprétation. Donc l'équilibre habile met en lumière la beauté, la violence, mais aussi la tristesse et la subtilité méconnue de ses textes. Il offre, plus étonnant encore, une portée universelle à des paroles qu'on imaginait à jamais incarnées par leur auteur.
Ouais,
donc c'est vraiment génial, surtout qu'on comprend les paroles.
Pour ceux, oui, voilà.
Ceux qui connaissent Love on the Beat de Gainsbourg, c'était Gainsbourg à l'époque,
ouais,
il marmonne, on comprend pas tout.
Ouais, c'est
là, c'est excellent parce qu'on redécouvre cet album. Enfin, nous, en tout cas, on le redécouvre. Ouais, certains vont le découvrir.
Ouais.
Et l'interprétation est excellente. Les arrangements musicaux sont superbes. Voilà, merci Fred. On écoute tout de suite Love on the Beat.
Vous êtes bien sur Band Geek Mafia.
Alex Baupin.
Sur Radio G101.5.
La radio qui fait le point. On se quitte dans quelques minutes, mais on vous propose d'écouter un petit morceau, enfin un petit bout du morceau. Enfin, je vais y arriver. Il est tard.
Je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Mais toi, déjà, tu tangues aux flux et reflux des marées. À toi en tant que cible, ma belle enfant écartelée. Là, j'ai touché le point sensible. Attends, je vais m'y attarder.
C'est Band Geek Mafia, votre émission Info Culture, une semaine sur deux sur Radio G. Salut Pablo.
Hey, salut Seb.
On se retrouve dans 15 jours.
Dans 15 jours. Merci à tous et à toutes. À très bientôt.
Bisous, salut.
On vous embrasse. Ciao, ciao. Joli.
Tu vous laisse avec Alex Baupin et Rudy Sbach sur Radio G.
Voilà, je m'introduis. Joli coup, comme un rubis perlé, le sang.